le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui Michel Bloch, pasteur de l'Église protestante unie de France à Brest. Ce matin, le doute, une blessure.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 10 mars 2019, nous entrons dans le temps du carême. Pendant 6 semaines, jusqu'à Pâques, la fête la plus importante du christianisme, les chrétiens sont invités à faire retour sur leur vie, sur leur foi, pour se préparer à cette célébration de la résurrection de Jésus qui signifie le rétablissement d'une relation toujours plus riche, plus profonde et plus paisible des croyants avec Dieu. Le premier dimanche du temps de carême est habituellement consacré à la méditation de l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Je ne vais pas aborder ce thème aussi directement, mais en considérer toutefois un des aspects fondamentaux, me semble-t-il, à savoir la question du doute. En effet, dans le désert, Jésus a dû affronter la question que le diable lui a posée. « Si tu es le Fils de Dieu ?» Un des traits les plus saillants de la tentation est le doute au sujet de la relation avec Dieu. Ce doute nous attaque nous aussi, bien souvent. C'est sur lui que je voudrais me pencher avec vous ce matin, au cours de ce moment cultuel. Pour cela, je vous propose que nous nous placions ensemble sous le regard de Dieu en priant. Ô Dieu, nous ne t'avons jamais vu, et nous savons combien il est dangereux de nous faire une image de toi. Mais nous croyons en ta présence, en ta justice et en ton amour. Merci de nous permettre ce matin encore de nous tourner vers toi par cette prière. Merci de nous permettre de partager quelque chose de toi grâce à ce culte radio diffusé. Tu viens ainsi nous unir les uns aux autres, rompre tous les isolements et ouvrir en nos cœurs un espace de paix. Loué sois-tu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La confiance est au cœur de notre relation avec Dieu. Tout au long de la Bible, nous lisons des promesses que Dieu fait aux hommes et aux femmes qui le rencontrent, promesses auxquelles ces hommes et ces femmes doivent se tenir contre vents et marées. À Abraham, il dit « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, versets 1 et 2. À Moïse, il affirme « Je serai avec toi. » Exode 3, verset 12. À Marie, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il déclare « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1, versets 30 et 31. Tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont été appelés à faire confiance à Dieu. Et nous aussi, aujourd'hui, nous recevons ce même appel. Mais cet appel est souvent difficile à assumer. Je vous invite à déposer le poids de cette difficulté dans la prière. Comme il est difficile, ô Dieu, de te faire confiance. Tu sais combien d'obstacles se dressent sur notre route pour nous détourner de ton appel. Des échecs, des souffrances, des ruptures qui nous affectent ou touchent notre entourage. Nous te remettons toutes ces situations en te demandant de nous venir en aide. Et puis, tu le sais, il nous est difficile d'oser risquer cette confiance, alors que nous ne te voyons pas, alors que nous avons souvent du mal à discerner ton action dans nos vies. Il nous faut du solide, du concret, des choses dont nous pouvons être sûrs, des choses que nous maîtrisons, sur lesquelles nous mettons la main et dont la possession nous rassure. Mais toi, Seigneur, tu nous échappes. Tu es toujours au-delà de ce que nous imaginons, pensons, ressentons. Trop souvent, alors, nous nous détournons de toi, nous t'oublions ou nous nous défions de celui que tu es. Pourtant, sans toi, nous manquons de force pour tenir debout face aux épreuves de la vie. Viens à notre secours, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus, le Christ, ton Fils. Amen. Notre histoire avec Dieu n'est pas d'abord une histoire de crainte ou de soumission. C'est une histoire d'amour. Et cet amour a un nom, Jésus. Jésus a vécu une vie comparable aux nôtres. Il a éprouvé toutes les aspérités de nos existences. Sa mort et sa résurrection signifient que rien dans nos vies humaines n'est ignoré de Dieu, et que l'amour de Dieu est plus fort que tout ce qui nous sépare de lui. Pour celles et ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, il devient possible de porter un regard nouveau sur sa vie, de voir s'ouvrir des portes et s'élargir des horizons. Le Seigneur nous aime. Il rétablit notre relation avec lui et il nous donne de reprendre notre chemin avec des forces nouvelles. Soyons certains que rien ne peut nous séparer de son amour. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs, pour que ces mots deviennent pour nous l'expression de ta parole vivante. Amen. Thomas est la figure traditionnelle de l'homme qui doute. Son attitude est devenue proverbiale. « Tu es comme saint Thomas, tu ne crois que ce que tu vois », peut-on entendre parfois, à l'adresse d'une personne qui aura ouvertement exprimé de la méfiance à l'égard de telle ou telle affirmation, lui paraissant trop difficile à concevoir. Je remarque que cette attitude est souvent comprise comme une qualité, la marque d'un esprit fort. À l'inverse, d'ailleurs, pour en rester aux expressions consacrées, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « J'ai la faiblesse de croire que… » Ainsi, douter serait une force et croire une faiblesse. Va pour l'opinion publique. Mais un tel raisonnement peut-il convenir à la vie de foi? Curieusement, il semble que beaucoup de personnes répondent là aussi oui. Il n'y a pas de foi authentique sans doute, peut-on entendre assez fréquemment. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? De quel doute parle-t-on en fait? De quel doute Thomas a-t-il été saisi? Thomas et les autres disciples d'ailleurs. On peut remarquer que tous les évangiles mentionnent ces troubles dans le cœur des apôtres au moment de la résurrection. Matthieu nous dira « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. » Marc, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils l'avaient vu ressusciter. Et Luc, celles qui racontèrent aux apôtres que Jésus était ressuscité étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Toutes ces citations sont tirées des derniers chapitres de chacun des 3 premiers évangiles. On peut se sentir réconforté par une telle récurrence, en se disant qu'après tout, si les disciples eux-mêmes ont douté, eh bien ce n'est pas si grave si nous-mêmes sommes assaillis par de telles questions. Je crois pourtant qu'il vaut la peine d'aller voir un peu plus loin, car les choses ne me paraissent pas aussi simples que cela. De quoi parle-t-on quand on parle du doute qui intervient dans la vie de foi? Il ne s'agit pas du doute méthodique de la démarche scientifique, très utile pour assumer la perplexité dans laquelle plonge une nouvelle découverte ou l'apparition d'un phénomène que le consensus théorique admis jusque-là ne parvient pas à expliquer. Sans ce doute, la science ne pourrait pas avancer. Il ne s'agit pas non plus de cette marque de force de l'esprit qui ne donnera crédit qu'à ce qu'il sera capable de concevoir par lui-même et qui se méfiera de tout ce qui n'est pas démontrable rationnellement. À ce doute-là, il me semble que l'on peut rappeler qu'un certain nombre des données de la physique quantique sont très difficiles à comprendre, à admettre, car elles sont très peu concevables, et que pourtant, elles sont acquises par un grand nombre de physiciens. On peut aussi évoquer le doute existentiel, celui qui occasionne l'angoisse face à la mort, et à ce qui peut se passer après. Est-ce que ce en quoi je crois n'est pas une illusion ? Est-ce que je ne me trompe pas moi-même en mettant ma foi dans le Dieu de Jésus-Christ ? Voilà peut-être qui nous rapproche beaucoup de la situation des premiers disciples. Mais s'agit-il de quelque chose qui conditionnerait une foi authentique ? Une chose sans laquelle la foi ne serait que du fanatisme. Beaucoup de théologiens de nos jours soutiennent cette affirmation. Je ne suis pas entièrement sûr que cela soit vrai. Je crois qu'il est bon de revenir à notre texte pour nous permettre d'y voir plus clair. Reprenons la situation de Thomas. Il est clair qu'il pose ici une condition pour croire que Jésus est ressuscité. Mais il faut, je crois, être très attentif à cette condition. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas ne dit pas simplement « si je ne le vois pas », ni même « si je ne le touche pas ». Il va plus loin. Il demande à constater les blessures dont il sait que ce sont elles qui ont entraîné la mort de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été témoin de cette mort. Il n'était pas à la croix. Ce qu'il dit là, il le dit sur la base de ce que les témoins, Jean, Marie et les autres femmes, lui ont raconté. Nous avons vu Jésus se faire crucifier. Nous l'avons vu mourir. Et quand il est mort, un soldat romain est venu lui planter une lance dans son côté pour s'en assurer définitivement. Ce que je vous raconte là, je le reprends du récit de Jean lui-même, au chapitre 19 de son évangile, les versets 18 et 33-34. Mais savez-vous ce que Jean écrit tout de suite après ces versets ? Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Jean 19, 35. Dès le début du christianisme, même la mort de Jésus a posé un problème. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas croire que celui que l'on considérait comme le Messie, le Sauveur du monde, voire le Fils de Dieu, soit mort sur une croix comme un esclave. Ce témoignage de la mort de Jésus est donc déjà lui-même authentifié par Jean, parce qu'il y a eu tout de suite des personnes pour le mettre en cause. Ce témoignage-là, Thomas est prêt à le croire. Mais il faut bien comprendre la situation de Thomas. Il a eu besoin qu'on lui dise ce qui s'est passé à la croix parce qu'il n'était pas présent. Mais pourquoi n'était-il pas présent ? Parce qu'il a fui lorsque l'on est venu arrêter Jésus. Comme presque tous les autres disciples d'ailleurs. Il n'y a guère que Pierre et un autre dont on ne connaît pas le nom qui aient suivi Jésus jusqu'au prétoire de Pilate, mais aucun n'a pris sa défense à son procès de toute façon. Et ils n'ont pas été nombreux à oser aller à la croix. Donc, pour les disciples, en particulier pour les 11, à l'exception de Jean, voir Jésus ressuscité, ce n'est pas seulement être témoin d'un miracle incroyable, c'est aussi revoir celui qu'ils ont abandonné et passer par l'épreuve de cette rencontre pour recevoir le pardon de sa part. Pardon pour l'abandon, pour la lâcheté. Pensons en plus que Thomas est celui qui a pu dire « quand Jésus est allé voir Lazare mort », et que tout le monde pensait que cela signifiait qu'il allait se faire arrêter tout de suite, allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. Quelle prétention ! Quand les autres disciples lui disent donc qu'ils ont vu Jésus ressuscité alors que lui était absent, Thomas n'a pas pu le croire. Peut-être plus parce qu'il n'osait pas espérer que Jésus lui pardonne, que parce qu'une résurrection est quelque chose de vraiment surnaturel, exceptionnel et difficile à concevoir. Pour bien comprendre combien cet enjeu est important, il ne faut pas non plus oublier un autre disciple, qui s'est trouvé dans la même situation, mais qui a vécu tout cela juste avant les autres. C'est Judas. Quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait en livrant Jésus, Judas a cherché à recevoir un pardon, car il était pris de remords. Il est allé voir les grands prêtres, comme Matthieu nous le raconte, au chapitre 27 de son évangile, des versets 3 à 5. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas n'a pas pu recevoir de pardon. Il n'a pas pu croire que Jésus allait ressusciter et il est mort. Comprenons-nous combien cette question de la foi, de la confiance en Jésus, en Dieu, est vitale? L'apparition de Jésus à ses disciples est le signe du pardon que Dieu leur a accordé d'avoir abandonné son Fils à la mort. C'est d'ailleurs pour cela, me semble-t-il, que Thomas crie, quand il voit Jésus, non pas « Je crois que tu es ressuscité », mais « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pourquoi? Parce que pour un juif comme Thomas, Dieu seul peut pardonner les péchés. Thomas comprend que Jésus est revenu pour lui manifester son pardon à lui aussi. Voilà le sens de la résurrection pour les chrétiens. C'est là-dessus que porte le doute de façon fondamentale. Il vient remettre en question dans notre cœur la certitude du pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Oui, Jésus est vivant. Notre vie est validée, justifiée, parce que Dieu nous pardonne et nous dit son pardon par la résurrection de Jésus, pour chacun de nous. Et lorsque le doute nous assaille, c'est cela qui est remis en cause. C'est pourquoi je ne peux vraiment pas faire mienne l'affirmation selon laquelle le doute fait à ce point partie de la foi qu'il serait un gage de son authenticité. Le doute est une douleur, une souffrance énorme, une tentation terrible. À cause de notre péché, il y aura toujours des moments d'épreuve et de doute. Mais je ne me crois pas capable de m'en satisfaire. Mais c'est aussi pourquoi je ne veux pas faire de la morale avec le doute, en disant que douter c'est mal. Je dirais plutôt que douter, ça fait mal. Mais malheureusement, nous sommes encore pécheurs, et nous devrons nous battre avec cela toute notre vie. Les disciples eux-mêmes ont dû le faire. Savoir ainsi que Jésus a pu revenir vers Thomas, malgré cette épreuve qui le traversait, est pour moi un repère fondamental. Dieu n'est pas une idée, un concept. Il se tient près de moi, et quand la tempête de l'épreuve se lève, il est à mes côtés, comme une personne vivante, car il est venu en Jésus-Christ pour que rien ne me sépare jamais de lui. Ainsi soit-il. Pour entendre l'expression de la foi chrétienne, je vous propose d'écouter les paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à rassembler toutes vos prières dans celles que Jésus nous a apprises à adresser à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rappelons-nous les paroles que Jésus ressuscité a dites à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frères et sœurs, c'est à nous, entre autres, que Jésus pensait en disant cela. Car aucun de nous n'a été témoin de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection le premier jour de la semaine après sa mort. Mais il est quand même mort et ressuscité pour nous aussi. Son pardon est pour nous aussi. Et nous pouvons en faire l'expérience par la foi. Aller plus loin que le simple apprentissage par cœur des vérités du catéchisme, mais l'expérimenter en profondeur dans nos vies. C'est pour vivre cela que Dieu nous bénit. Oui, Dieu nous bénit et nous garde. Il fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Il lève son regard vers nous et nous donne la paix. Allons en paix, frères et sœurs. Amen.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Le doute, une blessure. C'était le thème de la méditation de Michel Bloch, pasteur de l'Église protestante unie de France, à Brest. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Manu Couturier. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au 47 rue de Clichy dans le 9e arrondissement de Paris. Restez sur France Culture, dès 9h, vous retrouvez la rédaction pour le journal, suivi de Talmudic présenté par Marc-Alain Wachnin. Bon dimanche à tous et à chacun.